Bonjour, bienvenue à Point de vue, ici Boris Chassagne qui vous accompagne pour cette prochaine demi-heure. Au sommaire de l'émission, elle quitte le Congo à l'âge de 3 ans avec ses parents et 30 ans plus tard devient la mairesse d'un arrondissement de Montréal, le parcours inspirant de Gracia Kasuki.
En fait, c'est important pour moi de ne pas me lancer en politique. Pour me lancer en politique, pour être au pouvoir, je trouvais que c'était pas une bonne raison de se lancer. C'était important pour moi de, lorsque j'allais le faire ou si je le faisais, de le faire parce que je pensais que ma présence dans un poste politique allait vraiment avoir une valeur ajoutée.
Yves Letellier aime bien se faire un petit drink quand il n'est pas sur son bateau et de les rafraîchir aussi avec de la glace d'iceberg qu'il garde jalousement dans son congélateur. Pur plaisir.
Je trouve ça tellement fantastique de boire de l'eau d'iceberg. Là. Quand tu le casses, le bruit que ça fait aussi, là, c'est pas comme de la glace que tu as dans ton congélateur, là, pas du tout. Là.
Et une initiative du gouvernement du Nouveau-Brunswick pourrait faire tâche ailleurs au pays. Le site web éducatif Lieu plus sûr Nouveau-Brunswick est lancé avec l'objectif de freiner le harcèlement sexuel en milieu de travail.
Les sortes de harcèlement sexuel ne sont pas toujours identifiées comme harcèlement sexuel. Il y a des sortes de comportements, les commentaires et les gestes qui ne sont pas toujours traités comme un problème dans le milieu de travail.
Bienvenue à Point de vue.
Suivez-nous sur Twitter, @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
Née en République démocratique du Congo, la jeune Gracia a 3 ans lorsqu'elle immigre en banlieue de la ville de Québec. Dans son travail d'infirmière et de gestionnaire en santé, Gracia Kasuki Katawa défend un système de santé à échelle humaine et elle fait de ce combat une lutte politique. Eh bien, ça lui réussit. Elle est élue mairesse le 7 novembre 2021 avec le parti Projet Montréal. Elle devient la première femme noire à occuper le poste de mairesse de l'arrondissement de Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, dans le nord-ouest de la ville. Après un baccalauréat à l'Université Laval, Gracia Kasuki Katawa obtient sa maîtrise en administration publique. Par la suite, elle multiplie ses actions sociales jusqu'à entrer au conseil d'administration de l'Ordre des infirmières en 2018 et elle finit par se lancer en politique en 2021. J'ai grandi avec des personnes qui étaient toujours en train d'aider les autres, pas parce que c'est leur job, mais parce que c'est leur façon d'être, dit-elle. J'ai appris beaucoup de mon métier d'infirmière. C'est d'abord une fierté et une responsabilité pour moi que de servir la communauté, nous dit Gracia Kasuki. Gracia Kasuki Katawa, nouvelle mairesse de l'arrondissement Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, qui est au micro de Sophie Stanquet.
Je ne savais pas nécessairement que c'était un parcours qui me prédestinait à être impliquée en politique, mais c'est clairement un parcours d'une personne qui a à cœur d'avoir un impact autour d'elle. Et puis, bon, un de ces outils qu'on a pour ça, c'est en effet de s'impliquer en politique active. J'ai fait le choix de la profession infirmière à la base pour ça, en fait, parce que c'était important pour moi de savoir que lorsque j'allais me lever à chaque matin, que j'allais assurément avoir un impact concret dans la vie de quelqu'un autour de moi. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ce choix. Donc, je suis allée faire une maîtrise en administration publique à l'ENA pour mieux comprendre l'impact, finalement, de notre système de santé, la façon dont les décisions étaient prises en haut de nous, l'impact de cela sur les soins que nous, on offrait à la population. Donc, de là, j'ai développé un réseau politique, en fait, à l'ENAP. Ce sont des personnes qui sont engagées à différents niveaux politiques, souvent qui sont nos professeurs. Et j'ai voulu, donc, suite à cette maîtrise, développer des habiletés politiques. Donc, j'ai commencé à m'engager dans des organisations à but non lucratif, dont le réseau des entrepreneurs et professionnels africains, par exemple. Et puis, de là, vraiment, à débouler d'autres implications à Force Jeunesse, etc., à la Jeune Chambre, et finalement, qui m'a permis de développer des compétences que je ne développais pas nécessairement au travail. Donc, j'ai développé certaines compétences en parallèle et je crois que c'est tout ça, en fait, qui m'a amené à être une candidate pertinente pour les gens de Côte-des-Neiges NDG.
Et vous avez rencontré quelqu'un qui a été votre mentor. Parlez-moi de lui, c'est Rémi Trudel. Oui. Il est vraiment devenu votre mentor. Pourquoi?
Monsieur Trudel est un professeur de l'ENAP et puis ses cours sont très très concrets. Alors, Monsieur Trudel a été un élu les cours qu'il donnait c'était en fait des pratiques très concrètes d'un rôle d'élu finalement. Donc c'est ça m'a marqué. C'est quelqu'un aussi qui nous donne des opportunités à la fois de rencontrer d'autres élus, mais aussi de s'engager. Par exemple, on est allé comparer les systèmes de santé du Québec et les systèmes de santé brésiliens. Donc il avait toujours des faces très très créatives en fait de nous faire apprendre. Monsieur Trudel a aussi été très au fait de la situation, par exemple, politique en RDC. Donc, je crois que c'est ces éléments-là qui ont fait en sorte qu'on avait des intérêts communs, disons, où on a discuté souvent, où je me suis souvent impliquée dans les différentes activités qu'il organisait. Et puis, de fil en aiguille, je crois, avec le temps, c'est devenu un mentor, un conseiller, quelqu'un qui prend de mes nouvelles, que j'appelle une fois de temps en temps pour lui demander des conseils également.
Alors, vous avez dû téléphoner à M. Rémy Trudel pour faire le choix et le saut en politique municipale. Racontez-moi comment ça s'est passé, votre décision, est-ce qu'on est venu vous chercher, est-ce que c'était tracé devant vous, logiquement, c'est par là que je dois aller. Comment ça s'est passé, ce choix-là de vous présenter à la mairie et aux élections municipales?
Vous savez, j'ai déjà été dans une conférence où on m'a dit, je crois que pour qu'une femme puisse se lancer en politique, ça prend 7 sollicitations. Mmh. Et je crois que je n'étais pas très loin de ça, en fait. C'est-à-dire, lorsqu'on me voyait engagée dans différentes organisations, je crois que chaque palier de gouvernement, je recevais des appels à chaque élection. En tout cas, à quelques élections, à quelques reprises pour me lancer en politique. Puis je me disais que je n'étais pas prête, que ce n'était pas le temps. En fait, c'était important pour moi de ne pas me lancer en politique pour me lancer en politique, pour être au pouvoir. Je trouvais que c'était pas une bonne raison de se lancer. C'était important pour moi de, lorsque j'allais le faire ou si je le faisais, de le faire parce que je pensais que ma présence dans un poste politique allait vraiment avoir une valeur ajoutée. Voilà. Donc, après les quelques sollicitations, cette année qui a fait la différence, je vous dirais qu'on m'a sollicité quand même tôt dans l'année et j'ai dit non au départ. Mmh. J'ai dit non, je pense que le contexte était que j'étais honnêtement épuisée j'étais gestionnaire dans le réseau de la santé depuis longtemps. Et donc, je voulais garder mes énergies pour soutenir mes équipes qui étaient encore en train de combattre la pandémie. Lorsqu'on m'a demandé, j'ai dit, mais c'est impossible qu'à ce stade-ci, je puisse me lancer en politique. J'ai pas l'énergie pour ça. Sauf que, lorsque j'ai commencé mes vacances, parce qu'on a pu avoir des vacances, quelqu'un a eu la chance, je pourrais dire, de me recontacter à quelques jours du début de mes vacances. Et puis là, je n'étais plus reposée. Et j'ai dit, vous savez quoi? Je vais y réfléchir. Mmh. Puis je vais y réfléchir parce que j'ai constaté, en fait, l'impact du municipal dans la façon, dans notre performance par rapport à la gestion de la pandémie. Donc j'ai dit, vous savez quoi? Je vais y réfléchir parce que, en effet, je pense que mon parcours est pertinent. Et puis voilà. Donc de là, on a commencé les discussions avec Projet Montréal pour voir où je souhaitais me présenter. Et c'était pas facile quand on parlait de codénage individu. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient. On m'a donné l'opportunité aussi, et ça c'est un élément important. On m'a laissé poser toutes mes questions pour me rassurer. Au bout de ce processus, finalement, mon fiancé m'a accompagnée là-dedans. Et puis, à un moment donné, il me disait, « Mais Gracia, t'as parlé à tellement de personnes. Je le sais que t'as envie de le faire. Fais-le. » Et j'ai assumé que c'est quelque chose qui me tentait. Et puis, j'ai accepté. Et vous savez, juste un dernier élément aussi qui, je pense, facilite le fait que des personnes issues de la diversité, notamment, se lancent, c'est le sentiment que j'avais que je ne serais pas la seule personne noire lancer. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Il y a des personnes que je respecte énormément qui avaient pris la décision de se lancer également. Mm-hmm. Je pense à Erika Alnéus, par exemple, à Martine Moussao. À ce moment-là, il n'y avait pas encore Madame Olivier, mais je voyais plusieurs personnes que je respecte, que je vois engagées à différents niveaux, qui avaient décidé de se lancer aussi. Donc, j'ai dit, vous savez, ça, c'est quelque chose qui me plaît. Je ne serai pas la seule noire quelque part, parce que ça peut être une charge mentale assez importante.
Oui, tout à fait.
Et, c'est un élément qui a fait la différence.
Alors justement, j'en suis là. Quand vous entendez le lendemain de vos élections remportées à 212 voix par majorité, on dit aux informations la première femme noire à la tête de l'arrondissement. Donc qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que ça vous donne une fierté ou ça vous chagrine d'avoir cette phrase-là?
Je crois que c'est quand même étonnant qu'un arrondissement comme celui-ci, je sois la première à ce stade-ci de la vie de l'arrondissement. Cela étant dit, je suis fière, en fait, de cet élément, mais je suis surtout fière et contente de voir, en fait, lorsque je faisais mon porte-à-porte, en fait, de voir les yeux des parents ou des enfants briller lorsque ils ouvraient la porte et que c'était moi la candidate. Je sens, en fait, que ça va amener d'autres personnes à réaliser qu'elles, ils ou elles peuvent, en fait, devenir briguer, finalement, des postes électifs également, et que c'est possible. J'aimerais bien rencontrer des jeunes pour leur montrer que c'est possible et qu'on a toutes les qualités, les compétences, l'historique nécessaire pour être en mesure de briguer un poste politique au Québec.
Alors, qu'est-ce que vous voulez faire dans Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce? Vos priorités pour cet arrondissement?
Un élément que je pense qui va me suivre pendant tout mon mandat, c'est le fait que je suis entrée en mandat et quelques semaines avant, en fait, il y a un jeune garçon qui s'appelle Janaï de Poelbélé qui s'est fait assassiner finalement devant son école sur le territoire. C'est quelque chose que pour moi, je crois beaucoup au fait que parfois les astres s'alignent pour certaines choses et je crois que ça c'est un message très fort qu'il va falloir prendre soin, s'assurer de prendre soin de nos jeunes dans l'arrondissement, particulièrement suite à la pandémie qui affecte énormément de personnes. Mais peut-être, voilà, je sais que mon rôle comme mairesse d'arrondissement, ça va être de travailler avec les organismes communautaires qui travaillent auprès d'eux pour s'assurer qu'on les soutient. Donc ça, c'est un élément. J'ai parlé des organismes communautaires. Moi, je vois mon rôle de mairesse comme un rôle de facilitatrice, en fait, par rapport au travail qui est déjà très bien fait, qu'ils aient, en fait, les ressources, les réseaux, bref, qu'il leur faut pour encore mieux jouer leur mission. Tout l'aspect de la qualité du service rendu aux citoyens, c'est quelque chose sur lequel je vais vouloir travailler. Beaucoup de personnes me contactent déjà et d'avoir de leur donner un retour dès que possible, de considérer leurs propositions. Donc, améliorer le service qu'on rend aux citoyens, ça va être aussi au cœur des priorités que j'ai partagées avec les services ici dans l'arrondissement.
Merci, Gracia Kasoki Katawa, et bon mandat à Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce. Merci.
Merci. Merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir.
Suivez-nous sur Twitter @CanadaLJI, @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
Depuis plusieurs années, Yves Letellier, résident de La Tabatière, en Basse-Côte-Nord au Québec, récupère des bouts d'iceberg et puis les conserve dans son congélateur. Drôle d'idée, me direz-vous, mais pourquoi donc fait-il ça? Eh bien, il les utilise pour se faire tout simplement de bons drinks, un plaisir qui a de quoi devenir contagieux, si bien qu'il en parle avec bonheur dans la voix. Si Yves Letellier conserve de la glace d'iceberg pour son propre plaisir, il n'est pas le seul. Il existe bel et bien un marché pour ce type de récolte, particulièrement du côté de Terre-Neuve et Labrador, qui est en face donc de la Tabatière, il y a quelque 1300 km de Québec, c'est pas tout près. Par exemple, la microbrasserie Quidi Vidi à St. John's à Terre-Neuve produit notamment une bière blonde à partir de l'eau d'iceberg, vieille de plus de 20 000 ans, assure-t-on sur la bouteille. Et d'autres entreprises produisent également d'autres boissons alcoolisées fabriquées à partir de l'eau d'iceberg. C'est un marché qui semble rapporter aux chasseurs d'iceberg. Un journaliste de l'AFP, l'agence France-Presse, Julien Besset, nous cite le capitaine Edward King qui a su tirer profit de la fonte des glaciers du Groenland. Son équipage a même récolté en 2019 près de 800 000 litres d'eau durant la haute saison des icebergs. Yves Letellier ne vend rien, mais yeute jalousement ses icebergs en ouvrant son congélateur. Il se raconte au micro de Pénélope Clermont.
Ben, moi, c'est pour mes drinks, là, comme un bon scotch whisky là, à Burfieldy, ou ben non, un bon gin comme le Saint-Laurent de Rimouski. Celui de Bécomo aussi. Là.
Puis est-ce que c'est une pratique courante en Basse-Côte-Nord de récupérer des bouts d'iceberg pour ses drinks?
Ça, c'est une bonne question, je ne sais pas. Faudrait poser la question à la population. Là. Mais moi, en tout cas, je trouve ça tellement fantastique de boire de l'eau d'iceberg. Là. Puis c'est quand tu le casses, le bruit que ça fait aussi, là, c'est pas comme de la glace que tu as dans ton congélateur, là, pas du tout, là.
On m'a expliqué même que ça dégageait un certain pétillement, là, justement, quand le liquide entre en contact avec la glace, c'est ça?
Oui, c'est ça. Premièrement, quand j'en fais, je le garde toujours en bloc, je ne le casse pas en petits morceaux. Là, je le sors, puis je me fais un morceau de la grosseur du verre que je vais prendre, évidemment, là, à peu près. Là. Je prends mon couteau, puis je fais des lignes dessus pour le marquer. Puis après ça, je donne un bon coup au centre, puis ça fait un beau carré ou un rectangle. Fait que là, je le mets en carré pour le mettre dans mon verre. Ensuite, je verse mon gin ou mon whisky, mon scotch ou le bourbon dessus. Puis là, juste l'effet de la chaleur, là, il va craquer. Paf! Là, il fait comme une explosion. Là. Après ça, là, il commence à fondre tranquillement. Puis si tu mets ton oreille, là, c'est comme si tu buvais du Pepsi. Là, tu sais. C'est des bulles d'air qui sont emprisonnées dans la glace depuis des milliers d'années. Puis la glace iceberg n'est pas faite juste par de la pluie ou de l'eau. De l'eau douce là, qui gèlerait. C'est plutôt par les couches de neige avec des milliers d'années. Ça compresse toute cette neige-là, puis ça devient en glace. Puis là, il y a de l'air là-dedans. Ça fait que ça fait toutes des petites bulles qui explosent là, quand elles sont sous pression. Anyway. Fait que quand ça fond, là, pouf, quand tu l'entends péter, là, c'est impressionnant.
Est-ce que ça fait longtemps que vous récupérez de la glace d'iceberg comme ça pour faire vos drinks?
Ben vois-tu, moi, je suis arrivé en 90 ici, à la tabatière. Oh, ça fait pas bien longtemps. Là. Je dirais à peu près 8-9 ans là, que j'en ramasse là, quand il y en a.
Puis où vous avez entendu parler de ça? Ou c'est vous qui avez eu l'idée d'entrer?
Non, c'est moi. Oh, oui. Alors, il faut que je bois mon drink avec ça, certain.
Vous allez peut-être instaurer une tradition, qui sait, en Basse-Côte-Nord.
Ah, ce serait le fun.
À quel endroit vous avez récupéré ces bouts-là que vous avez présentement?
Ça dépend, parce que les icebergs, ils suivent les courants puis les vents. Ça fait que là, quand ils arrivent là, de la mer du Labrador, ben, ils prennent le détroit de l'île puis là, ils descendent. Ça fait que si les vents sont bons, ils vont descendre jusqu'à chez nous. J'ai eu les courants. Puis, bien souvent, ils échouent sur les rifs, là, les hauts fonds. Là, ils restent là jusqu'à temps qu'ils fondent, puis qu'ils cassent, puis qu'ils tournent. Puis là, ils reprennent la mer. Fait quand ils sont bien, bien ancrés, bien là, c'est facile d'y aller. Tu sais que le lendemain, ils vont être encore là. Là. Fait que je pars en bateau, puis je me rends là-bas. Puis je prends ma hache, puis je casse des morceaux. Là, ça tombe dans l'eau. J'en casse. Puis après ça, j'y ramasse avec mon filet. Puis je les mets dans mon cooler, là. Puis j'en reviendrai avec ça.
Et contrairement à ce qu'on peut penser, il n'y a rien de salé hein, dans cette eau-là. C'est vraiment de la glace là, pure, là.
Exactement, oui. Puis quand des fois, bien souvent, tu vas voir un iceberg, là, il y a une grosse ligne bleue dedans, là. Ça, c'est de l'eau pure. Okay. Tu vois à travers comme une vitre, là. C'est incroyable. Cette glace-là, elle dure plus longtemps que la glace ordinaire de congélateur.
Est-ce qu'elle peut finir par goûter le congélateur comme peut le faire la glace ordinaire?
Ah, c'est un autre petit détail que j'ai oublié de te mentionner. Quand ça fait plusieurs mois ou années là, que tu l'as, comme là, moi j'en ai depuis 2019, ben, je la passe en dessous de l'eau.
Ah oui, OK.
Je passe mon morceau, puis là, je le rince en dessous de l'eau un petit peu. Ah, là, il craque en tabac. Il n'aime pas ça pantoute. Fait que là, ça l'enlève le goût s'il y en a. Mais j'ai jamais goûté le congélateur là-dedans.
Voilà, on sait tout des mystères de l'iceberg dans le congélateur. Une fois l'entrevue terminée, M. Letellier m'a précisé qu'il y avait de la poussière d'étoiles dans la glace et possiblement des bactéries et des virus qui remontent à très longtemps. C'est pourquoi il la déguste avec de l'alcool fort, dit-il.
Notre journaliste Pénélope Clermont a contacté M. Letellier après avoir lu sur Facebook qu'il répondait en fait à une invitation de Tourisme Côte-Nord qui était à la recherche d'un résident de la base Côte-Nord qui aurait, par hasard, dans son congélateur, un bout d'iceberg, eh bien, des morceaux de l'iceberg de M. Letellier ont même voyagé jusqu'à Montréal et ont pris la vedette lors de l'émission télé « Ça finit bien la semaine », justement co-animée par la porte-parole de Tourisme Côte-Nord.
Ils voulaient qu'on amène la glace, la casser tout en petits morceaux d'une grandeur de verre, la préparer toute pour l'émission, que ça soit toute faite pour qu'il n'y ait pas de problème avec ça là-bas. Mais vois-tu, quand tu casses la glace en petits morceaux, tu réduis sa capacité de garder sa froideur. Ouais, sa froideur. Elle peut fondre plus vite. C'est plus dangereux de la perdre, tu sais. Mais en tout cas, il est supposé de la faire pour moi. J'ai montré comment. Je suis allé chez lui. On a pris un morceau, parce que j'en avais deux morceaux, à peu près de 10 pouces carrés, les deux. Puis, j'ai montré comment la casser, là. C'est comme je t'ai expliqué, avec le couteau, faire des lignes, puis la fendre après ça, là. Ça se fait très, très bien.
En ce qui a trait à la réserve de glace de M. Letellier, on lui souhaite de pouvoir la garnir à nouveau, lui qui n'a pas vu d'iceberg à proximité de la côte depuis 2019. Dans ce dernier extrait, il nous parle de la dernière fois, qu'il en a rencontré un.
évité le Mont des Beaux Iceberg. Le mont dernier, il y a à peu près 200 pieds de long par 70 pieds de haut. Puis en descendant dans une petite pente, là, puis peut-être à peu près une centaine de pieds de large. Puis sur le côté, il y avait comme une tête de sous-marin, je vais appeler ça comme ça, comme un champignon là, qui serait à côté, mais il faisait toute partie de cet iceberg-là. J'aurais passé entre les deux, mais ouais, je vais poser. Là. Puis, c'est assez dangereux aussi quand ça se met à tourner, ça. Il ne
faut quand même pas risquer sa vie pour un drink. Hein?
Non, c'est ça. Je l'aime bien, mon bateau.
Ben, merci encore, M. Tellier. Ça nous fait bien plaisir d'avoir découvert cette pratique avec vous aujourd'hui.
Pas de problème, ça me fait vraiment plaisir.
C'était Yves Letellier, résident de la Tabatière, dont les bouts d'iceberg dans le congélateur auront servi à nous instruire.
Vous savez que la réputation de pureté de cette eau d'iceberg est, semble-t-il, surfaite, nous apprend la journaliste scientifique Ève Christian. Selon elle, il est inexact de prétendre que l'eau d'iceberg est la plus pure au monde. Les eaux souterraines sont de bien meilleure qualité que celles recueillies sur des icebergs, dit-elle. Et contrairement à la croyance populaire, ce liquide n'est pas nécessairement bon pour la santé, car il ne contient pas beaucoup de minéraux. Ainsi, boire de l'eau déminéralisée, comme celle des icebergs, aide à se le désaltérer, oui, mais c'est tout. Selon Eve Christian, cette eau dans laquelle on ne retrouve ni calcium ni magnésium peut même avoir des effets indésirables sur les muqueuses intestinales, voire contribuer au développement de l'ostéoporose et de l'hypertension, ce qui pourrait augmenter le risque de maladies cardiovasculaires. Alors, attention! Afin de prévenir le harcèlement sexuel au travail, la Commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick et le Service public d'éducation et d'information juridique du Nouveau-Brunswick ont lancé la semaine dernière le site web éducatif « Lieu plus sûr ». L'objectif étant d'éduquer les employeurs et les employés sur les manières de réagir à un incident ou à une plainte de harcèlement sexuel. Le programme vise également à appuyer les besoins des communautés LGBTQ+, en milieu de travail. « Lieu plus sûr » Nouveau-Brunswick a été élaboré suite à des consultations menées auprès des intervenants au sujet de l'enjeu du harcèlement sexuel au travail. Le projet de 5 ans est financé par Justice Canada. Toute forme de harcèlement a des effets dévastateurs sur toutes les personnes concernées, souligne Marc-Alain Mallet, directeur de la Commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick. Compte tenu des changements démographiques, nos lieux de travail sont beaucoup plus diversifiés, dit-il. Cette ressource permettra aux employeurs de se concentrer sur le mieux-être de leur personnel. Judy Desalliers reçoit Amber Chisholm, directrice générale par intérim du Service public d'éducation et d'information juridique du Nouveau-Brunswick.
Bonjour Amber.
Bonjour Judy.
Donc, pouvez-vous nous parler un petit peu plus de Lieu plus sûr Nouveau-Brunswick? Pourquoi avez-vous décidé de lancer un site comme celui-ci?
Oui, c'est un projet qui est financé par le département de justice du gouvernement du Canada. Et c'est, il y a un but d'éviter et aussi éduquer les personnes sur comment réagir après avoir eu une incidence de harcèlement sexuel au milieu du travail ou une plainte de harcèlement sexuel. On croit que les sortes de harcèlement sexuel ne sont pas toujours identifiées comme harcèlement sexuel. Il y a des sortes de comportements, les commentaires et les gestes qui ne sont pas toujours traité comme un problème dans le milieu de travail. Peut-être il y a c'est normalisé ou il y a des personnes qui pensent qu'ils sont seulement des gestes ou des commentaires simples. Alors, on a vu une nécessité de fournir des matériaux en ligne, mais aussi par des formations en personne pour éduquer les personnes. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire s'ils voient des incidences d'harcèlement sexuel ou s'ils ont expérimenté une incidence aussi?
Et ça, est-ce que vous croyez que ça va ouvrir les yeux de certains? Est-ce que vous croyez que ça va changer les choses quant au harcèlement au travail?
J'espère que oui. Il y a beaucoup de matériaux pour éduquer le public, mais aussi les employeurs, parce que les employeurs, ils autres, doivent être informés sur leurs obligations légales et aussi les conséquences si on ne réagit pas dans la façon nécessaire et une façon qui est légale, mais qui aussi a un but de supporter les employés, tous les employés, quand il y a une incidence. Alors oui, je pense qu'il y a des matériaux ici qui sont très uniques. Par exemple, on a des matériaux qui sont au but spécifiquement d'identifier les sortes d'harcèlement qui sont expérimentés par la communauté LGBTQ et comment certains commentaires ou gestes ou questions dans le milieu du travail ne sont pas appropriés, mais sont pas toujours traités comme un harcèlement sexuel.
Donc, c'est pas seulement pour les employeurs, mais aussi pour les employés.
Oui, exactement. On a de formations et aussi des matériaux qui sont qui ont un but directement pour d'informations pour les employés, mais aussi des informations spécifiquement pour les employeurs et quelles sont leurs obligations aussi.
Parfait. Pour les employeurs qui seraient intéressés à offrir la formation, où est-ce qu'ils peuvent s'inscrire?
Ils peuvent s'inscrire sur le site web, c'est lieuplussurnb.ca, et nous contacter là. Il y a une formation en ligne que les personnes peuvent prendre à leur propre temps, mais aussi ils peuvent nous contacter par le site web pour demander une formation en personne, par Zoom, pas en personne, mais c'est facilité par une vraie personne. En temps.
Et c'est un projet de 5 ans. Qu'est-ce que vous espérez pour la suite? Est-ce que vous croyez que ça va quand même se poursuivre?
C'est un projet de 5 années et nous sommes dans l'année 3, la troisième année. Alors, on espère que pour au moins 2 autres années, on a des fonds et des ressources pour supporter ce projet avec plusieurs d'autres pour éduquer et informer le public. Mais après ces 5 années, un but de ce projet, c'est d'être certaine qu'on peut encore offrir cette information après le temps du projet elle-même. Ces 5 années sont finies.
Parfait. Donc, ça va se poursuivre. On va continuer d'en apprendre davantage, d'avoir des formations, j'en suis certaine. Donc, merci, Amber, de nous en avoir informé. On vous rappelle, pour tous ceux qui nous écoutent, lieuplussurnb.ca pour tous les intéressés. Merci encore, Amber.
C'est ça. Merci beaucoup, Judy.
Voilà qui conclut cette édition de Point de vue, produite avec le concours des équipes radio de l'initiative de journalisme local postée à travers le pays. Cette émission est rendue possible grâce au concours du Fonds canadien de la radio communautaire. Suivez toutes nos nouvelles sur canada-info.ca, canada-info.ca. Vous savez que les reportages qu'on vous fait écouter ici ne constituent qu'une infime partie de ce qui est produit au quotidien par nos journalistes, lesquels travaillent d'ailleurs dans les deux langues. On vous invite à nous suivre sur Twitter, @CanadaLJI, CanadaLJI. Vous pouvez aussi vous abonner à nos balados sur vos plateformes préférées. On remercie nos journalistes Judy Desalliers, Sophie Stanquet et Pénélope Clermont, de même que leurs invités, aux artistes qui nous offrent leur musique, nos compliments. Merci à Stéphane Bénard, notre coordonnateur à l'info. Ici Boris Chassagne, à l'animation et à la réalisation, qui vous dit à la semaine prochaine.